Osons la philosophie. Une émission de Françoise Gernot et Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Nouvelle émission de Françoise Gernot. Bonjour Françoise.
Bonjour à toutes et à tous.
Osons la philosophie et vous avez choisi aujourd'hui de nous parler de Jacques Derrida, La question de l'animal. En fait, vous partez de... C'était une note de lecture que vous nous proposez aujourd'hui.
Oui, je propose une note de lecture et je partirai donc de deux conférences qui ont eu lieu lors d'un colloque, le colloque de Cerisy, en 1997 et qui sont maintenant republiées dans une publication facile, c'est-à-dire une publication de poche, Folio Essai.
Sous le titre « L'animal,
alors,
que donc je suis ?»«
L'animal, que donc je suis ?» Alors, bien sûr, mon titre était « La question de l'animal », mais tel n'est pas le titre du recueil de ces deux phases de séminaire dont je vais parler. Le titre est « L'animal, que donc je suis ?» Vous imaginez tout de suite qu'il y a une petite parodie du « Je pense, donc je suis » de Descartes, puisqu'il s'agit justement... à partir d'une nouvelle pensée de l'animal, ou d'une pensée, pas critique, on va dire, oser le mot, déconstructrice du discours classique sur l'animal, il s'agit donc revenir sur la distinction radicale proposée par les philosophes entre l'homme, animal doué de logos, c'est-à-dire parole et raison, et l'animal comme tel. Voilà. Donc tel est effectivement l'enjeu de ce travail très très minutieux de Derrida, à la fois sur l'expérience qu'il a d'un animal, il y a une scène primordiale que je vais tout de suite vous lire, il s'agit aussi de reprendre et de renverser d'une certaine manière toute une tradition philosophique qui a relégué l'animal hors de ce qui faisait la spécificité de l'homme. Essentiellement, donc, l'animal non seulement est privé de parole, mais Derrida insiste sur un thème, l'animal est privé de la capacité de répondre, ce qui est évidemment, et éminemment problématique, bien sûr.
Mais pratique.
Oui. Alors que les animaux ne répondent pas, je laisse ça en suspens, bien sûr, et lui aussi.
Ils ne répondent pas par la parole, ils répondent peut-être par autrement.
Tout commence aussi de la part de Derrida par un aveu, avant que je ne parle de cette scène, par un aveu qui est l'aveu d'empathie, de sympathie avec l'animal. Et contrairement à la tradition philosophique, qui réduit par exemple chez Descartes l'animal à du machinique, Derrida invoque la parole devenue célèbre de Jeremy Bentham, qui est la question suivante. Voici ce que dit Jeremy Bentham. La question n'est pas de savoir si l'animal pense, s'il a une raison, s'il a de la parole. La question est, pour les animaux, peuvent-ils souffrir? Can they suffer? Et c'est à partir de là, si vous voulez, Jacques Derrida interroge une tradition philosophique qui a été ignorante de quelque chose qui est le propre du vivant animal, c'est-à-dire sa capacité de souffrir. Mais pas seulement. Derrida aussi essaiera de montrer que ce qu'on a pu appeler la mélancolie de l'animal ou la souffrance de l'animal n'est pas la seule version, de leur vie. Pour les animaux, qu'il peut y avoir aussi chez l'animal une dynamique, c'est-à-dire de la vie.
Alors sur la photo du livre, il a un chat entre les mains.
Voilà.
Personnellement, il aimait les chats.
Alors sur la photo donc qui a été reprise par Folio, vous avez un très beau portrait de Jacques Derrida, qui est un très très bel homme, avec en train de caresser et d'être tout
proche,
tout transi auprès de sa chatte. Tout commence en effet par une petite note autobiographique, une expérience personnelle. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire qu'au lieu que Derrida commence par un discours théorique sur l'animalité, il commence par une scène, et une scène où il s'agira, bon, bien sûr, d'autobiographie, c'est une scène tout à fait autobiographique. Le chat dont il s'agit, ou plutôt la chatte, est vraiment sa chatte, ce n'est pas une chatte conceptuelle. Mmh. Alors, entre parenthèses, quand des philosophes parlaient des animaux, ce sont des animaux concepts.
Oui.
Et pas des animaux avec lesquels ils auraient une relation, je dirais justement, de vivant à vivant. Mmh. Bien, alors, Jacques Derrida, donc, nous raconte une petite scène où se joue, je reprends, le motif de l'autobiographie, le motif du regard et le motif aussi de la nudité. Alors, vous allez voir, c'est très complexe, c'est très noué, et je vais vous lire ce passage. Un peu long, peut-être.
Mais avec plaisir, nous écoutons.
Depuis le temps, peut-on dire que l'animal nous regarde ?
Peut-on dire ? On n'est pas sûr.
Nous regarde. Double sens du mot en français. Hein. Ça me regarde, ça me regarde. Quel animal ? Point d'interrogation. L'autre. Souvent, je me demande, moi, pour voir qui je suis. Donc le motif autobiographique est lié au motif du regard de l'animal. Et d'un regard de l'animal, nous allons le voir sur la nudité. Souvent, je me demande, moi, pour voir qui je suis et qui je suis au moment où, surpris, nu, en silence, par le regard d'un animal, par exemple les yeux d'un chat, j'ai du mal à surmonter une gêne. Pourquoi ce mal ? J'ai du mal à réprimer un mouvement de pudeur. Du mal à faire taire en moi une protestation contre l'indécence, contre la malséance qu'il peut y avoir à se trouver nu, le sexe exposé, à poil, devant un chat. Je reprends, un chat qui vous regarde sans bouger, je souligne. Juste pour voir. Malséance de tel animal nu devant l'autre animal. Dès lors, on dirait une sorte d'animal séance. L'expérience originale, une et incomparable de cette malséance, qu'il y aurait à paraître nu, en vérité, devant le regard insistant de l'animal, un regard bienveillant ou sans pitié, étonné ou reconnaissant. Un regard de voyant, de visionnaire ou d'aveugle extralucide. C'est comme si j'avais honte, alors, nu devant le chat, mais aussi honte d'avoir honte. Réflexion de la honte. Miroir d'une honte honteuse d'elle-même, d'une honte à la fois spéculaire, injustifiable et inavouable. Au centre optique d'une telle réflexion se trouverait la chose et à mes yeux le foyer de cette expérience incomparable qu'on appelle la nudité et dont on croit qu'elle est le propre de l'homme, c'est-à-dire étrangère aux animaux, nus qu'ils sont, pense-t-on, sans la moindre conscience de l'être. Vous voyez à quel point ce texte est noué, puisque sont, je dirais, articulés, sont tissés. Le motif essentiel, c'est comme le motif de l'animal qui nous regarde.
Qui nous regarde,
et l'impression que nous avons d'être à nu devant eux. C'est une scène de salle de bain, bien sûr, hein, c'est précisé après. C'est une scène de salle de bain. Il imagine ensuite Derrida qu'il peut y avoir un miroir et peut-être une femme. Donc ça complique évidemment la schématisation. Mais avoir honte devant le regard de l'animal. Bon, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que plus tard, Jacques Derrida dit que les philosophes ont regardé les animaux. Ils les ont regardés, mais ils n'ont pas regardé que les animaux les regardaient.
C'était à sens unique.
C'est ça, si vous voulez. Ce à partir de quoi la réflexion s'instaure, qui suis-je moi en tant qu'animal ? Ce à partir de quoi la réflexion de Jacques Derrida s'instaure, c'est dans cette expérience primitive, non pas de voir, mais d'être vu et d'éprouver ce sentiment tout à fait primordial, la honte de la nudité, c'est peut-être un des affects fondamentaux. Bon, ça a été décrit par des psychanalystes américaines, je crois.
Mais c'est vraiment le premier philosophe qui a posé la question de cette façon.
Oui, alors, il insiste plus tard en disant, encore une fois, ce que j'avais dit dès le début, c'est sa chatte. C'est sa chatte. Donc c'est bien une chatte réelle, il insiste. Ouais. C'est ma chatte, c'est la chatte réelle. Il évoque aussi, le seul exemple qu'on ait le plus vif dans la littérature française, c'est l'histoire de la chatte de Montaigne. Montaigne, lui, alors il joue à sa chatte. Je vais peut-être lire ce passage, n'est-ce pas ? C'est important. Ouais. Un petit peu avant ce que je propose, c'est-à-dire lire quelques lignes de Montaigne. Voilà, je précise. Hein. Derrida, si je dis c'est un chat réel qui me voit nu, c'est pour marquer son irremplaçable singularité. Quand il me... Quand il répond à son nom, car l'animal, nous l'avons vu, domestique, répond au moins à son nom, quoi que veuille dire répondre, et ce sera donc notre question, donc, quand il répond à son nom, il ne le fait pas comme le cas d'une espèce chat, et encore moins d'un genre ou du règne animal. Ou d'un règne animal. Alors nous verrons, c'est un des éléments les plus importants peut-être du propos de Derrida sur l'animal. Il n'y a pas l'animal. Il n'y a pas l'animal. Nous y reviendrons. Hein, il y a tel chat, mon chat,
un animal.
Ma chatte, qui n'apparaît pas en tant qu'espèce.
Ouais.
Les philosophes ont toujours, justement, dans la mesure où ils considéraient toujours un animal typique, ils en faisaient un prototype conceptuel. Mais ce n'était jamais un animal avec
à soi.
lequel ils avaient cette relation. Alors, il y a deux types de relations, mais là je sors du monde de Derrida avec l'animal. C'est la relation que nous avons avec les animaux domestiques, quand même très particulière. Bon, le chat est quand même à la limite, parce que le chat est à la maison, mais il n'est pas domestiqué. Ça, c'est ça, le paradoxe du chat.
Oui. Bon.
Et de surcroît, l'autre grande expérience de la nature, c'est celle du chasseur. Et en particulier des chasseurs, je pense à un texte anthropologique très important de Charles Stepanov, qui justement étudie la manière dont les peuples de Sibérie, alors il y a deux types, enfin bon, par exemple deux versions du chamanisme, mais ça peu importe, comment les peuples de Mongolie peuvent entrer en quelque sorte dans la logique, dans la vitalité de l'animal qu'ils vont chasser. Et ils ont une relation par projection imaginaire avec l'animal qui est d'une autre nature que celle que toute notre tradition occidentale, déconstruite ou non, nous présente. Je propose une toute petite notation, qui est celle aussi de Jacques Derrida, mais moi j'aimais la lire aux élèves, qui montre comment justement il peut y avoir une réversibilité entre l'homme et l'animal. Michel de Montaigne. Voici. Quand je joue à ma chatte, qui sait si elle passe son temps de moi plus que je ne fais d'elle. Et plus loin, édition de 1595, nous nous entretenons de singerie réciproque, si j'ai mon air de commencer ou de refuser, elle a la sienne.
Oui, il y a vraiment une autre conception vraiment de l'animal. On est loin de la tradition philosophique.
On est loin de la tradition philosophique, mais il s'agit aussi d'un passage, ces grands textes sceptiques de Montaigne. Et la tradition sceptique est une tradition qui, comment dire, émousse la différence entre l'homme et l'animal sur de très nombreux points de vue. Hein, l'apologie de Raymond Segond. Puisqu'il s'agit d'histoire de chat, je voudrais mentionner, et ce sera évidemment ce que nous entendrons musicalement, un poème d'un poète anglais qui s'appelle Christopher Smart, du 17e siècle je crois, qui s'appelle Mon chat Geoffrey, enfin Mon chat Geoffroy, traduit en français, j'ai l'édition bilingue de la Pléiade. Et là où c'est intéressant, c'est que Smart, Christopher Smart, crée une sorte de psaume en l'honneur de son chat, un chat qui pour lui est un animal qui a en lui l'étincelle divine. Donc je pourrais peut-être lire deux petits extraits. Le poème est tout en anaphore. Car, for. En français. Le final, l'essence du chat. Car il a l'ouïe si perçante que les oreilles lui en cuisent. C'est de là que provient l'acuité sans pareille de son attention. Car en le caressant, j'ai découvert l'électricité. Car j'ai perçu la lumière de Dieu en lui, à la fois la cire et le feu. Car le feu électrique est la substance spirituelle que Dieu envoie du ciel pour sustenter le corps tant de l'homme que de la bête. Car Dieu l'a béni dans la variété de ses mouvements, car il ne peut pas voler, c'est un excellent grimpeur, car ses façons de se mouvoir à la surface de la terre sont plus diverses que celles de tout quadrupède. car il peut exécuter en mesure tous les pas de danse sur un air de musique, car il peut nager pour sauver sa vie, car il peut ramper.
Alors sur Radio Alliance Plus, après cette lecture du poème, donc, enfin d'un passage du poème et son illustration musicale, l'illustration musicale est faite par un contemporain.
Oui, tout à fait, un contemporain qui musicalise, si j'ose dire, dans le domaine du psaume. Hein? Alors nous sommes bien sûr sous le registre du psaume.
Alors nous continuons donc l'étude de Jacques Derrida. La question de l'animal que vous avez illustré donc par des textes et par des analyses.
Oui, en effet. Eh bien, Derrida ne cesse, comme toujours, enfin, de pratiquer une extrême précaution lorsqu'il s'agit, pour un homme, mais un philosophe, de parler de l'animal. Parce que nous devons, je vais dire nous maintenant, affronter deux difficultés, deux risques. Bon. Celui, je cite, de la projection appropriante, c'est-à-dire que nous pensons l'animal par rapport à notre expérience humaine, en tout cas certains animaux, hein, nous projetons notre propre sensibilité, notre propre vitalité sur la leur. Mais aussi et surtout, et ça vaut pour la tradition philosophique, nous pouvons aussi penser l'animal à partir d'une, je cite, interruption coupante, comme lorsque précisément on dénie à l'animal, car il s'agit d'une dénégation, non seulement la capacité de répondre, hein, qui est vraiment le thème de Derrida, mais lorsqu'on lui dénie la vie, tout simplement. Pour en faire, par exemple, c'est le cas de Descartes, des animaux-machines. Bon, il faut être très sérieux avec Descartes, parce que Descartes ne conçoit pas, n'isole pas, sauf peut-être dans des lettres où il y a quelques ouvertures tout de même, mais Descartes ne conçoit pas l'animal parce qu'il ne conçoit pas la vie. Hein? Donc le schéma du monde, selon lui, est réductible à du mécanique. Et d'ailleurs, le corps humain est une mécanique, hein? Avec cette alliance assez étrange de la mécanique avec la pensée, très énigmatique, hein, pour Descartes.
Mais c'est peut-être lié à son époque aussi, peut-être.
Non, le schéma mécanique est galiléen.
Ah, oui.
Alors ça correspond effectivement, bon, si on veut faire référence à l'anthropologie contemporaine, à Descola par exemple, ça correspond effectivement à une certaine époque, à une certaine époque de la pensée où il n'y a pas de communication d'esprit à esprit entre l'homme et l'animal, il n'y a que du différentiel. Nature et culture s'opposent. Je simplifie beaucoup les analyses très subtiles de Descola. Bon, ces précautions effectuées, qui ne cessent quand même de travailler avec beaucoup de subtilité le texte d'Derrida. Alors, juste un mot sur la déconstruction. Bon, ce que Derrida a appelé déconstruction, et qu'il, ce concept qu'il utilise, ou cette idée, ou cette pratique interprétative, il en parle toujours avec beaucoup de subtilité. Bon. En aucun cas, je veux simplement préciser, en aucun cas la déconstruction serait une destruction de la vérité. Au contraire, et vous savez que toute la pensée woke, on l'attribue entre autres à la French philosophy, à la philosophie française et à Derrida. Bon, il s'agit d'un terrible contresens. Derrida a toujours été un homme en quête de la vérité, et justement, cette remise en question des lourdeurs, des impensés, donc de la philosophie classique, vise à redécouvrir une vérité, alors dirais-je plus essentielle, peut-être, oui, une vérité plus essentielle. De la même manière, mais ça c'est un peu en dehors de notre sujet, de la même manière, Descartes a toujours dit que la notion de justice, la justice est indéconstructible. Bon, tout ça pour dire tout de même un mot du caractère pour moi extrêmement scandaleux des attaques qui sont aujourd'hui portées contre Derrida, et en particulier lorsqu'il s'agit de la filiation derridienne d'une certaine pensée américaine contemporaine.
Oui, je trouve que c'est énormément d'actualité ce que vous dites.
Oui.
On a compris l'allusion.
Je propose un effet d'annonce, et je pense que là, dans la deuxième partie de mon propos, je ferai des lectures plus longues, peut-être plus évidentes pour nous. Je voudrais donc annoncer deux thèmes qui sont tout à fait essentiels aussi. Donc, Derrida marque aussi cette relation entre la réflexion sur l'animal et le temps présent. Et il dit deux choses. Bon, d'abord, nous sommes à un tournant historique où la relation à l'animal est pensée à nouveau frais. Bon, il faut évidemment faire état, j'y faisais allusion, il faut faire état de tous ces travaux, ceux des anthropologues, pour la relation donc de l'homme à l'animal, et aussi ceux des scientifiques qui étudient l'animal dans leur milieu naturel. Donc, si vous voulez, nous avons une autre approche de l'animal dont peut-être, à mon sens, Derrida ne tient pas suffisamment compte. Mais en tout cas, il marque cela, et je vous lirai dans la seconde partie de nos émissions ce dont il est question. Et le deuxième point qui est tout à fait important, c'est que pour Jacques Derrida, il n'y a pas l'animal. L'animal comme catégorie totalisante de toute la multiplicité des espèces du vivant. Autrement dit, lorsqu'il dit l'expérience que j'ai eue de me voir vu par une chatte, il s'agissait bien de ma chatte et pas de la catégorie chatte et pas de l'espèce chatte. Donc, si vous voulez, Jacques Derrida introduit non seulement la diversité dans le monde animal, qu'on a globalisé de manière tout à fait aberrante, mais il interroge aussi la singularité de l'animal. Or, nous savons bien, quand nous avons des animaux domestiques, à quel point ils sont singuliers. Un chat mort n'est pas remplacé par un autre, c'est un autre chat.
Eh bien, nous allons voir cela dans des lectures, donc dans la seconde émission. Merci Françoise.